Allô, allô, ici Cinieri.
En 1969, alors que la guerre du Vietnam fait rage et oppose indirectement les deux grandes puissances, le cinéaste anglais Alfred Hitchcock réalise un film américain d'espionnage ayant pour titre original Topaz. Cette œuvre, dont la production coûta à l'époque près de 4 millions de dollars, s'intitule dans sa version française L'étau. Moins connue que les autres réalisations du maître britannique, elle a souvent été très injustement décriée. Léon Duris en a écrit le scénario et Samuel Taylor l'adaptation. Maurice Jarre a pour sa part signé une musique toujours émouvante et souvent bouleversante. Il s'agit de la version cinématographique de l'ouvrage publié par Léon Duris, Topaz, un roman inspiré d'une histoire vraie, The Sapphire Affair, l'affaire Saphir, affaire qui s'est déroulée en 1962 dans l'entourage du général de Gaulle, autrement dit en pleine guerre froide. Fait rare dans la filmographie d'Alfred Hitchcock, la distribution comprend plusieurs comédiens français: Danny Robin, Claude Jade, Michel Subor, Michel Piccoli et Philippe Noiret, aux côtés de l'actrice allemande Karine Dorr et d'une pléiade d'acteurs américains, dont notamment Frédéric Stafford et John Forsythe, sur fond de confrontation américano-soviétique. Le film met en scène la lutte souterraine et acharnée que se livrent les deux blocs pour accaparer les données secrètes de l'un et démanteler le réseau d'espions de l'autre. André Devereaux, l'un des responsables français du contre-espionnage, qui entretient des relations très étroites et personnelles avec les Américains, accepte en l'occurrence d'effectuer une mission pour leur compte. Dans un premier temps, il s'agit d'espionner à Cuba l'installation des missiles soviétiques, puis, dans un second temps, de démasquer le réseau pro-soviétique infiltré dans les services français et qui répond au nom de code Topaz. Il doit par conséquent obtenir des renseignements sur les activités que mèneraient les Soviétiques à Cuba. En effet, un haut dirigeant russe basé au Danemark et que les Américains ont exfiltré avec sa famille leur a appris que l'URSS avait l'intention d'installer des missiles à La Havane. Le périple des personnages va donc les conduire respectivement aux États-Unis, en France et à Cuba. Pour ce faire, le tournage du film s'est déroulé à Copenhague, Paris, New York et Washington. Dans cette œuvre, Hitchcock respecte les lois du genre, propres aux films d'espionnage: action, mystère, suspense et angoisse. Mentionnons ainsi la première séquence du film où le haut fonctionnaire soviétique, son épouse et sa fille sont exfiltrés et pris en charge par les Américains. La fuite est captivante et le suspense à son apogée. Toujours dans le registre classique du thriller, évoquons un moment particulièrement stressant et palpitant. Il s'agit de la scène taillée et minutée au cordeau, au cours de laquelle une mallette doit être dérobée aux Cubains et des documents photographiés afin qu'André Devereaux puisse apporter la preuve du traité conclu entre les Soviétiques et les Cubains. Également conforme au film d'espionnage et à ses codes, figure une scène à suspense où deux agents cubains espionnent pour le compte des Américains un chargement de missiles. Mais les indices se multiplient qui alertent finalement les soldats cubains, ceux-ci finissant par comprendre qu'ils sont espionnés. Il s'ensuit la poursuite, puis la capture de ces agents et leur mise à mort après de longues séances de torture. Enfin, une dernière scène se déroule dans un restaurant parisien. Elle répond aussi au canon du thriller. Autour de la table se retrouvent des responsables français des services secrets, avec parmi eux l'espion non identifié qui travaille pour Moscou. Le suspense est alors à son comble. L'humour est cependant loin d'être absent du film, notamment lorsque le haut fonctionnaire soviétique critique de manière acerbe et méprisante la procédure que les Américains ont suivie pour l'évacuer. Le passage est particulièrement savoureux car il dénigre en bureaucrate tatillon une manœuvre qui a parfaitement réussi et vient de le sauver. De même, lorsque les Américains procèdent à une séance de débriefing, le soviétique multiplie à nouveau les arguties bureaucratiques totalement décalées et qui créent naturellement un effet comique. Hitchcock ne se contente toutefois pas de respecter les lois du genre qui s'attachent aux films d'espionnage. Il les dépasse en montrant aux spectateurs que les personnages, leurs relations privées, leurs émotions, leurs affects, leurs amours même, ne peuvent obéir à aucune logique, aucune rationalité propre. Ils n'en ont jamais la possibilité. En dernière instance, ils ne dépendent en effet que du conflit américano-soviétique et des diverses formes qu'il revêtira. Cette dimension s'impose à eux, quoi qu'ils fassent. En fait, Hitchcock met en évidence combien tout leur parcours de vie est immanquablement déterminé et finalement broyé par la logique de la guerre froide. Ces personnages, qu'ils appartiennent à un camp ou bien à l'autre, ne sont que de pauvres pions, semble nous dire Hitchcock, alors même que leur formation professionnelle a fait d'eux des espions très expérimentés, rusés, calculateurs et manipulateurs, des agents qui ne commettent aucun faux pas, mais qui seront pourtant tués, exécutés, voire massacrés. Certains de leurs proches, qui sont peu impliqués dans le jeu complexe et aveugle de l'affrontement entre les deux blocs, le seront parfois au même titre qu'eux. Ceci dit, aucune analyse politique ne sous-tend le film. Ce dernier n'est porteur d'aucun message politique, sinon celui de façonner une image désastreuse et féroce de Cuba et de présenter la France et les services français comme bien faibles, vulnérables et dépendants. La guerre froide est plutôt représentée par Hitchcock comme le fatum auquel rien ni personne ne peut échapper, dès lors que l'on est pris dans une histoire qui dépasse nécessairement les hommes, une histoire faite par les États pour les États. Rappelons brièvement le contexte historique qui permet d'éclairer ce film. Mentionnons tout d'abord le débarquement qui a lieu le 17 avril 1961 dans la baie des Cochons. Débarquement au cours duquel 1400 hommes, soutenus par une force aérienne, tentent de renverser Castro et son régime. Il s'agit en majorité d'exilés cubains, entraînés par la CIA dans un camp situé au Guatemala. Cette tentative se situe dans le cadre d'une opération autorisée et financée par l'administration Eisenhower. Différentes villes sont bombardées, mais les forces castristes résistent et viennent à bout de cette invasion. Très peu de combattants sont tués. Quant aux autres, ils sont faits prisonniers et échangés contre de l'argent ou des médicaments. Ensuite, survient la crise dite des missiles de Cuba. Les événements se déroulent entre le 14 et le 28 octobre 1962. Ils opposent alors de manière paroxystique les États-Unis et l'Union soviétique au sujet des missiles que l'URSS pointe sur le territoire des États-Unis après les avoir installés sur l'île de Cuba. La tension est telle à l'époque qu'elle mène les deux blocs au bord de la guerre nucléaire. Leur posture stratégique se confond avec celle de la Brinkmanship Policy ou politique du bord du gouffre. Cette crise souligne en outre les limites de la coexistence pacifique qui avait pourtant été esquissée auparavant entre les deux superpuissances. Finalement, elle s'achève par le retrait des missiles exigé par le président John Kennedy. Nikita Khrouchtchev finit en effet par obtempérer et céder aux exigences des Américains, après avoir obtenu toutefois de Kennedy l'engagement écrit de non-invasion de Cuba. Dans les décennies qui suivent, l'URSS entend bien éviter d'autres tentatives américaines de renversement du gouvernement cubain. Elle réussit à garder son influence sur Cuba, qui reste plus que jamais communiste. C'est donc dans ce cadre de tension bipolaire qu'il convient de situer ce film d'Hitchcock. Cette réalisation se termine sur le démantèlement du réseau d'espions œuvrant pour le compte de l'Union soviétique et surtout sur la fin de la crise des missiles. Mais le prix à payer aura été la mort de nombre de protagonistes. Il est intéressant de voir ou revoir les taux. Alors que le président américain, Barack Obama, a annoncé le 17 décembre 2014 une révision historique des relations entre Washington et son voisin cubain. Il est intéressant de voir ou revoir les taux, alors que les deux pays ont repris leurs relations diplomatiques, alors enfin où l'embargo américain sur Cuba est substantiellement allégé avant d'être bientôt supprimé.